Bien, je vais passer la parole tout de suite au docteur Tonnel et à madame Berlemont pour donc continuer sur ce même sujet de la problématique de la psychiatrie et de la guerre 14-18. Merci.
Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer mon intervention pour remercier le docteur Pierre-Yves Alexandre de nous avoir invités, de nous avoir fait confiance pour cette intervention. Donc moi, je me présente, je suis madame Berlemont, Joanne Berlemont, je travaille au musée de la Grande Guerre de Meaux. Donc c'est un musée généraliste, un musée d'histoire et de société sur la Première Guerre mondiale qui a ouvert assez récemment, il y a 2 ans et demi. Je suis attachée de conservation, donc je travaille sur les collections. Et je vais intervenir avec Pierre Tonnel, donc qui est mon frère, et qui est un peu celui par qui je suis là aujourd'hui. Donc Pierre, qui est un jeune psychiatre, hein, il a soutenu sa thèse à l'automne dernier. Donc moi je suis historienne de formation. Pierre est psychiatre. L'histoire de la Grande Guerre mêlée à l'histoire de la psychiatrie, ou l'inverse, c'est aujourd'hui un chantier de recherche, d'études qui est très, très actif, qui permet de mêler, de croiser l'histoire des sciences avec l'histoire des conflits, avec l'histoire de l'expérience combattante. Je voulais juste vous préciser en amont que nous ne sommes pas des spécialistes du sujet, donc nous avons depuis quelques semaines bouquiné, étudié, travaillé le sujet. On vous présentera d'ailleurs à la fin de notre intervention une petite bibliographie qui pourra orienter les personnes qui souhaitent en savoir plus. Donc notre présentation va être assez générale, on va dire, sur la situation de la psychiatrie pendant la Grande Guerre. Donc la Grande Guerre, c'est un conflit qui a été long, meurtrier, brutal, qui a été fait de violence, de misère, qui a profondément marqué les corps, les âmes et les esprits des combattants, d'abord par sa durée, 5 ans de conflit, par la vie bestiale des hommes sur le front, par la mort qui était une réalité quotidienne des combattants, la toute-puissance aussi des armées engagées, notamment tous les moyens matériels, techniques qui ont été mis en œuvre et employés par les armées, la peur aussi, la peur, l'impuissance face à l'horreur. Elle a été donc, cette Grande Guerre, la cause de traumatismes neurologiques, fonctionnels, qui vont du simple cafard. Le cafard, c'était l'ennemi numéro un du combattant. Hein. C'était l'ennui, le temps long, l'attente. Et donc, qui vont du cafard à la démence, mais qui vont de l'anxiété aussi à la névrose traumatique. Donc, quand la Grande Guerre commence, avec les premiers combats, ces réactions sont à l'époque encore mal connues. Elles vont, à la faveur du conflit, progressivement être mieux décrites, mieux étudiées et surtout mieux suivies et mieux soignées. Donc notre intervention va se dérouler en 3 parties. Donc la première partie, ce sera la mienne, c'est la présentation de cette Grande Guerre, dans tous ses aspects, c'est une guerre totale. C'est une guerre aussi qui est nouvelle, qui prend une ampleur. Hein. C'est un vrai cataclysme. On n'a jamais connu de guerre de ce type auparavant. Pierre, dans une seconde partie, nous présentera donc les nouveaux traumatismes et auxquels sont confrontés les médecins, les soignants sur le front, donc les nouveaux traumatismes qui découlent des conditions particulières de ce conflit. Et enfin, dans une troisième partie, on vous expliquera la nouvelle organisation du service de santé pour répondre à ces problématiques et aussi les traitements qui sont employés par les médecins pour soigner. Voilà. Donc la Grande Guerre, c'est un conflit qui a une ampleur sans pareille. C'est vraiment la période de basculement entre le 19e siècle et le 20e siècle. D'abord parce que c'est une guerre qui va concerner non pas uniquement les militaires, mais qui va concerner toutes les sociétés. C'est-à-dire que l'arrière va devoir aussi participer à l'effort de guerre. C'est une guerre qui va être mondiale aussi. C'est la première guerre mondiale de l'histoire, puisque à la fin du conflit, en 1918, il y a 36 pays engagés dans le conflit. Ça, je l'ai illustré par cette dimension industrielle de la guerre, par ces tas de douilles, d'obus de 75. Donc l'artillerie, qui va connaître au cours du conflit, qui va avoir une ampleur et un rôle qu'on n'avait pas mesuré et estimé avant. C'est l'artillerie en fait qui va devenir la reine des batailles, puisque chaque attaque, chaque combat, chaque bataille va être précédée par des préparations d'artillerie complètement gigantesques. Il y a plus d'un milliard d'obus qui vont être tirés pendant le conflit. Un exemple, c'est le jour de l'attaque de Verdun par les Allemands, le 21 février 1916. Les Allemands vont commencer une préparation d'artillerie tôt le matin. Elle va s'arrêter avant 17 heures avant qu'ils attaquent. Il y a 1 million d'obus qui vont être tirés par l'artillerie allemande ce jour-là. Donc les obus, quand ils éclatent, ils soulèvent la terre. Ils mêlent la terre et les hommes. C'est des bruits absolument monstrueux. Ce jour du 21 février, par exemple, quand les Allemands tiraient sur Verdun, on entendait les résonnants jusqu'à Paris. Donc les hommes, ceux qui étaient encore vivants ce jour-là, à la fin de la journée, étaient devenus à moitié fous, totalement désorientés en fait par ces préparations d'artillerie gigantesques. Donc, je vais faire un petit retour en arrière, rapide, pour vous présenter donc le contexte de cette grande guerre. Comme le disait Anne Créton, l'élément déclencheur, c'est une nouvelle en fait qui paraît dans les journaux le 28 juin 1914, qui paraît lointaine pour les populations françaises. C'est l'assassinat d'un prétendant au trône d'Autriche-Hongrie, et de cet événement en fait de stupeur en escalade, ça va être le début d'une grande d'une barbarie. Donc le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Beaucoup pensent à ce moment-là que c'est encore le début d'une nouvelle crise balkanique, mais non, c'est le début d'un vrai conflit. Et en 13 jours, du 28 juin jusqu'au début août, l'Europe va basculer dans l'horreur. Donc ça commence par la Russie qui était l'alliée de la France et qui va assurer du soutien français, mobiliser ses troupes le 31 juillet. En réaction, Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, décide de mobiliser à son tour les troupes allemandes. Et le gouvernement français, alarmé par Joffre, qui était le commandant en chef des armées françaises, décide également de lancer la mobilisation en France le 2 août 1914. Donc là, c'est la première fois dans l'Europe que des millions de soldats quittent leur foyer et vont rejoindre les casernes pour être ensuite dirigés vers les lieux où vont se tenir les combats. Des plans de bataille avaient été étudiés, préparés avant-guerre par les états-majors français et allemands. Donc le plan allemand, c'était l'invasion de la France en passant par la Belgique qui était neutre à ce moment-là. Donc cette invasion a lieu le 4 août 1914. C'est la violation de la neutralité belge qui va décider les Anglais, le Royaume-Uni, qui jusqu'à ce moment-là était resté en retrait, a décidé l'entrée, enfin rentrer en guerre du côté de la France. Donc les Français, eux, de leur côté, avaient développé le plan Schlieffen, le plan 17, pardon. Donc les troupes se positionnent en Alsace. On a des combats très très durs et les Français libèrent Mulhouse. Donc c'est l'épisode de la bataille des frontières, c'est les combats du début de fin août, pardon, 14, qui sont les plus meurtriers en fait de l'histoire militaire française, parce que sur les journées du 21, du 22, du 23 août et du 24 août également, on a plus de 20 000 morts par jour dans l'armée française. Donc c'est des combats qui sont très durs, très intenses. Les Allemands s'avèrent mieux préparés. Ils avancent rapidement en France. Début septembre, pardon, ils sont aux portes de Paris, à 50 km de Paris. Les Français, face à cette avancée, les armées françaises ont retraité. Donc sur plusieurs centaines de kilomètres, les armées, les soldats ont fait demi-tour. Ça a été une période très très dure, puisqu'on était en août 14, il faisait très chaud. Les soldats avaient un équipement qui n'était absolument pas adapté. Tout était désorganisé. Les familles n'avaient pas de nouvelles des combattants, puisque rien n'avait été prévu en fait pour cette guerre qui allait s'installer. Début septembre, donc les Allemands sont aux portes de Paris et Joffre, le commandant en chef des armées françaises, décide d'une contre-offensive, profitant d'une inflexion du mouvement de l'armée allemande, une contre-offensive qui sera victorieuse et qui sera la bataille de la Marne. Donc sur 200 km, on va avoir des combats. Les armées allemandes vont finir par reculer. On a l'épisode de la course à la mer où chacun des belligérants cherche à rattraper l'autre. Et puis finalement, en octobre 14, les hommes sont épuisés. Ils viennent de passer plusieurs semaines dans des combats particulièrement difficiles. Il commence à faire froid. Les hommes s'enterrent d'abord dans des trous individuels pour se protéger du feu. Et puis finalement, les trous vont se rejoindre. Ils vont constituer des réseaux de tranchées, donc qui vont au fur et à mesure de l'avancée de la guerre se complexifier. On va avoir donc ce front sur une ligne continue de 700 km qui va courir de la mer du Nord jusqu'aux portes de la Suisse. C'est les Allemands qui commencent par creuser les tranchées, puisqu'ils sont mieux préparés à cette guerre de fortification, à l'inverse des Français qui vont croire pendant longtemps que l'offensive va reprendre, que la guerre de mouvement va reprendre. Et donc les Allemands vont vivre dans des tranchées qui vont être mieux construites, maçonnées, bétonnées. Les Français vont vivre dans des tranchées mal construites, ce qui va rendre les conditions de vie d'autant plus difficiles. Donc là, vous voyez les combattants, c'est des tranchées du début de la guerre. Rien n'avait été prévu pour une guerre qui allait s'installer. Donc les soldats n'avaient pas de vêtements chauds. C'était une vie de troglodyte, en fait. Donc le quotidien, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup d'ennuis. C'est le cafard, puisque le cafard, c'est vraiment, d'après les témoignages des combattants, ce qui est le plus dur pour eux. Ils pouvaient rester plusieurs semaines sans qu'il se passe quelque chose. Donc la tranchée, ça devient une organisation gigantesque et qu'il faut alimenter chaque jour en hommes, en nourriture, en matériel, en armement. Et en même temps, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc tous les témoignages nous disent la même chose, c'est qu'il faut attendre. Il faut attendre le courrier, il faut attendre la soupe. Et dans le même temps, il y aura, pendant les périodes de combat, des moments complètement à l'opposé, très très dur. Certaines unités vont monter à l'assaut 5 fois sur la même journée, notamment en 1917, lors des combats dans l'Aisne. Donc c'est un quotidien qui est aliénant. Donc pour la prise en charge des blessés, la Grande Guerre, elle a engagé, elle a mobilisé plus de 60 millions de soldats, toutes nationalités confondues, 4 millions de Français. Le bilan de ces victimes reste aujourd'hui pour nous hors normes, complètement saisissant, ahurissant. Il y a eu plus de 10 millions de morts et 20 millions de blessés. Donc, comment la France a-t-elle organisé son service de santé pour faire face à ces nouvelles conditions de combat, à cet afflux de blessés, notamment dans la première période de la guerre, quand c'était encore la guerre de mouvement, et comment le service de santé a pu répondre aux différentes blessures auxquelles il a été confronté, aux différentes pathologies. Donc le service de santé français obéit à un règlement qui avait été édicté en 1910. Donc ce règlement, en fait, décrivait quelle devait être l'organisation des formations sanitaires au moment de la mobilisation. Mais à ce moment-là, la doctrine française était qu'il ne fallait pas intervenir au plus près du champ de bataille. Donc le principe, c'était l'évacuation des blessés après des soins sommaires vers les hôpitaux de l'arrière, quel que soit le type de blessure. Et notamment pendant les combats de la fin d'août 1914, le service de santé va être complètement dépassé, en fait, par le nombre de blessés qu'il va devoir traiter, gérer. Et cela va entraîner de nombreuses difficultés dans les premières semaines, les premiers mois de guerre. Très vite, on va comprendre en fait que l'organisation est à remettre en place, d'autant plus qu'il y avait eu une mauvaise anticipation des plaies, des pathologies que pourrait soulever un conflit moderne. On avait estimé que les plaies seraient essentiellement des plaies par balles, alors que c'est l'artillerie qui va causer le plus les plus graves blessures. Et puis également, on avait pensé que la guerre serait courte, terminée en quelques mois, que les hommes seraient rentrés pour les vendanges à la début septembre ou au pire à Noël. Alors que en décembre 14, après 4 mois de guerre et près de 350 000 morts en 4 mois dans l'armée française, on commence à comprendre que la guerre va durer. Donc le service de santé va se réorganiser après les premiers combats. Donc il y a des mesures qui vont être prises dès octobre 14, pour revoir la chaîne d'évacuation des blessés et également les personnels médicaux, les médecins, qui étaient souvent des médecins de l'arrière qui avaient été mobilisés dans le service de santé, donc pas forcément des médecins militaires, essentiellement des médecins qui n'avaient pas été confrontés aux blessures ou aux blessures qui pouvaient se produire dans le cadre d'une guerre de ce type. Donc, et notamment, ce qui va surprendre, c'est qu'on va avoir beaucoup de blessés nerveux de nombreuses questions vont se poser pour les soignants. Donc là, je vais laisser la parole à Pierre. Oui, avant, je vais juste vous présenter une petite vidéo qui va vous synthétiser tout ce que je viens de dire. C'est aussi l'occasion de vous présenter quelques images animées de ce qu'était la relève des blessés à l'époque, les conditions dans lesquelles se faisait la relève des blessés, donc le service sanitaire, le service de santé aux armées organisé pour une guerre courte, les charges à la baïonnette puisque l'offensive était de mise pour l'armée française, et puis le front qui se stabilise. Donc là, vous voyez des brancardiers allemands. Le principe est le même hein, dans chaque pays. Donc les brancardiers avaient un brassard qui permettait de les identifier. Ils pouvaient se rendre sur le champ de bataille en vertu de conventions internationales sans qu'ils soient attaqués, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que le service de santé, donc c'était un service qui était en appui des autres armes de l'armée française, l'infanterie, l'artillerie, le génie. Et c'est le deuxième corps de l'armée qui a eu le plus gros taux de pertes, en fait. Près de 10% des personnes engagées, mobilisées dans le service de santé sont mortes pendant la Grande Guerre, ce qui le place en deuxième position derrière l'infanterie. Et la Grande Guerre va également imposer la nécessité du triage des blessés. Donc ces images proviennent de l'ECPAD, qui est l'établissement de production audiovisuelle de la Défense. C'est une structure qui n'avait pas ce nom-là, mais qui a été créée au moment de la guerre, en fait, pour constituer des archives d'images et de films pour la Défense. Donc ce sont des images officielles, on va dire.